L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Et ce matin, on va parler prévention du suicide. On est avec le cofondateur de l'APESA. Bonjour Jean-Luc Douillard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes de retour sur le territoire. Vous avez effectué plusieurs déplacements en Nouvelle-Calédonie au cours de ces derniers mois. On vous a reçu d'ailleurs. C'est le contexte économique véritablement qui vous pousse à venir ou c'est plutôt un lien qui se tisse aujourd'hui avec le territoire sur ces questions-là?
Alors je dirais que c'est un peu des deux. J'ai un lien évidemment sur ce territoire depuis la mise en place d'APESA en 2017, ici. Et le contexte économique vient accentuer la nécessité effectivement de repérer un petit peu mieux encore les dirigeants qui traversent des moments très compliqués et les prendre en charge.
Parce que l'APESA, effectivement, c'est une structure qui vient en aide aux entrepreneurs qui sont en souffrance aiguë. C'est dans le titre d'ailleurs de l'association.
Oui, c'est ça. C'est un dispositif très pragmatique qui consiste à former un maximum de personnes qui vont repérer les situations de dirigeants en difficulté et leur proposer un soutien psychologique pour qu'ils puissent traverser ces moments compliqués sans être seuls.
Alors évidemment, ce sont des cas très particuliers et on ne va pas rentrer dans le détail de chaque cas, mais est-ce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on a des entrepreneurs qui ont des pensées suicidaires ou pire, qui passent à l'acte liés à des difficultés économiques après ces émeutes qu'on a connues l'année dernière?
Oui, c'est très évident. Les émeutes ont accéléré sans doute beaucoup de fragilité. D'abord, de ceux qui, dans l'économie, étaient déjà un peu fragiles, mais aussi psychologiquement, c'est très dur. Le contexte actuel, économique et sociétal. Donc oui, ça a accentué beaucoup les difficultés. Puis les chefs d'entreprise s'engagent beaucoup pour les autres. Ils ont beaucoup de responsabilités et quand l'entreprise commence à être en difficulté, ils sont très très vite très touchés. Et effectivement, le risque suicidaire, il est majoré par cette responsabilité collective et en même temps des hommes et des femmes qui ont de temps en temps le sentiment que quand on n'est pas en capacité de tenir son projet, il vaut peut-être mieux disparaître. Oui. Donc c'est une vraie réalité, le risque suicidaire des artisans et des commerçants ici en Nouvelle-Calédonie.
Ça, vous le sentez? Pour vous, il y a une urgence à agir sur ces questions-là?
Alors, il y a une urgence relative à continuer à faire des efforts, parce que il y a très longtemps qu'on se préoccupe de ces réalités-là, mais les dirigeants, en fait, on a commencé à s'y intéresser il y a une dizaine d'années uniquement. On s'intéressait beaucoup aux salariés dans les entreprises, mais les chefs d'entreprise, artisans, commerçants ou les indépendants, en règle générale, on se préoccupait pas beaucoup de leur santé, déjà physique, mais aussi morale. Alors qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment de se préoccuper des personnes qui prennent beaucoup de responsabilités, qui gèrent de gros projets, qui sont stressés tous les jours, et qui effectivement traversent tout seul, parce que ce sont quand même beaucoup des solitaires, des moments ultra compliqués. Ouais.
Et vous le disiez, c'est peut-être difficile à déceler ce risque suicidaire chez l'entrepreneur, lié peut-être à sa fonction aussi, à ce qu'il incarne et à sa psychologie aussi. C'est pour ça que vous formez des sentinelles pour essayer de trouver peut-être les signes de quelqu'un qui irait mal. Comment ça se passe concrètement?
Oui, c'est ça en fait. À l'origine du dispositif, moi j'ai toujours considéré que... Bon, ça fait 30 ans que je fais la prévention du suicide en France, donc j'ai monté beaucoup de dispositifs avec d'autres publics, mais les dirigeants, ils ont une particularité. Je m'occupe beaucoup de sportifs de haut niveau et d'adolescents. Et en fait, c'est un petit peu le même fonctionnement psychologique. Quand on traverse des difficultés, notre santé, elle est souvent secondaire au projet. Et donc pour les chefs d'entreprise, tant que l'entreprise fonctionne plutôt bien, la santé va plutôt pas trop mal, même s'ils ont des douleurs au dos, de la fatigue, ils dorment pas très bien, ils mangent pas forcément très bien, donc ils gèrent ça au quotidien, mais quand l'entreprise va pas trop mal, ça va plutôt pas trop mal de leur côté. Et malheureusement, les petits signaux qui commencent à être des troubles du sommeil, de la fatigue, un peu d'irritabilité, des troubles de l'humeur, la perte de plaisir de faire des activités au quotidien, c'est des choses qu'on n'identifie pas pour soi. Les autres commencent à le voir. Et c'est l'intérêt justement de former un maximum de sentinelles, leur donner les outils de repérage en se disant qu'un changement de comportement peut être inquiétant quand on connaît une personne et qu'il n'est pas comme d'habitude. Mais aussi une fatigue, quelqu'un qui n'est plus dans les réseaux, qui commence à se désinvestir des activités dans lesquelles il était, qui va plus trop bien à la maison, qui commence à très mal dormir. Voilà, il y a pas mal d'outils. Donc l'idée de la formation des sentinelles, c'est encore une fois de les aider à comprendre comment ça marche, la dégradation du sentiment de soi, parce que si on sait comment les gens, petit à petit, psychologiquement se dégradent, on va pouvoir leur expliquer qu'on peut repérer ça. Et l'objectif des sentinelles, c'est aussi de leur donner des outils et de leur expliquer qu'on peut poser des questions plus précises quand on s'inquiète pour quelqu'un. Voilà, dire à quelqu'un comment tu vas, est-ce que je dois m'inquiéter pour toi, si je dois m'inquiéter pour toi, à quel point je dois m'inquiéter pour toi, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, c'est la meilleure des choses à faire, mais on n'ose pas trop faire ça. parce que ça paraît un peu intrusif, ça paraît un peu trop intime, on a peur de la réponse, on ne sait pas trop si c'est notre rôle, alors que moi je considère que dans le monde économique, tous les acteurs, qu'ils soient du petit secrétariat jusqu'au gros chef d'entreprise, en passant par les institutions, éventuellement les partenaires sociaux, on est tous en capacité de repérer quelqu'un qui va mal à partir du moment où on s'adresse à lui et on lui pose vraiment des questions précises.
Qu'est-ce qui provoque une crise suicidaire chez un chef d'entreprise ? C'est le fait d'être acculé économiquement ? C'est le fait de l'échec, du regard des autres face à sa situation économique ? Quel est le facteur principal ?
Alors, malheureusement, pour beaucoup de dirigeants, c'est assez multifactoriel. Mais la priorité, quand même, quand on gère une entreprise, c'est les problèmes financiers. Et les problèmes financiers, en règle générale, entraînent d'autres problèmes de relation à soi, du rapport aux autres, la difficulté d'en parler à la maison aussi, la difficulté de pouvoir trouver des solutions, des alternatives, se replier sur eux-mêmes. Donc voilà, c'est l'accumulation de pas mal de choses, mais je dirais quand même globalement, dans le dispositif APESA, ici, depuis 2017, il y a eu pratiquement plus de 200 chefs d'entreprise qui ont été repérés par des sentinelles. 150 d'entre eux ont été pris en charge, donc c'est très important, hein, 150 dirigeants depuis 8 ans. Ça veut dire qu'il y a une vraie capacité de ces sentinelles à repérer, un vrai besoin d'une prise en charge et la nécessité effectivement de faire encore plus aujourd'hui avec des sentinelles qui sont capables de repérer justement ce qui peut s'effondrer ou ce qui ne s'effondre pas. Parce qu'on leur apprend aussi que le processus suicidaire, il est assez pervers. On peut avoir le sentiment que quelqu'un va très bien, voire trop bien, et qu'il va mieux après une crise très très difficile. Et c'est ce qui m'inquiète, moi, parce qu'on peut aussi, et on doit être inquiet pour quelqu'un qui a passé des moments très difficiles et qui va bien un peu trop vite. Donc c'est tout ça qu'on essaye de transmettre aux sentinelles. Et puis on essaye aussi d'expliquer aux chefs d'entreprise que le processus suicidaire, c'est pas un virus, c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui est souvent déclenché par une situation très difficile. Et puis on essaye de s'en sortir, on cherche des solutions, et puis ça dure encore un petit peu, voire beaucoup, et puis les solutions elles s'épuisent, et on commence à perdre un peu les capacités de prendre des décisions pour soi, et on finit par avoir une santé mentale qui est très dégradée, et entre temps on s'est coupé des autres, on a arrêté les choses qui nous faisaient plaisir, on est surenvahi par le stress, l'anxiété, on n'a plus de perspectives, et on commence effectivement à avoir des idées noires, et les idées noires peuvent souvent se transformer en une idéation suicidaire. Donc on essaye de couper justement cet accès à l'idéation suicidaire en repérant le plus tôt possible un chef d'entreprise qui vit des choses très difficiles et en lui permettant sur ces 5 consultations de désamorcer la crise pour souffler un petit peu, reprendre un petit peu d'air dans un espace confidentiel, gratuit pour lui.
Parce que ces sentinelles sont chargées, on le rappelle, d'alerter des psychologues, faire en sorte que la personne commence un parcours de soins.
C'est ça, les sentinelles, elles sont le seul rôle qu'on leur confère, c'est de repérer. Voilà. Une fois qu'elles ont repéré, elles envoient un mail à la coordination et la coordination s'occupe de rappeler le dirigeant le plus vite possible pour lui proposer, encore une fois, en toute confidentialité, d'être accompagné par un psychologue libéral et de pouvoir avoir un espace pour lui pour traverser ces moments un peu compliqués.
Donc là, vous allez donner des formations aujourd'hui à la CCI sur ce thème-là, d'abord des sentinelles.
Voilà, aujourd'hui et demain matin, il y a 2 formations de sentinelles. Donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à venir à ces formations-là. D'abord, c'est très utile pour APESA en Nouvelle-Calédonie. Et puis, c'est aussi utile pour soi de comprendre un petit peu comment ça marche et de pouvoir parfois être, ou pour soi ou pour les autres, un acteur de prévention. Et jeudi, vendredi, je forme à nouveau des psychologues. Donc il y a 20 personnes inscrites. Des psychologues qui vont être aussi des ressources supplémentaires sur le territoire, soit pour APESA, soit un peu plus généralement pour la prévention du suicide, éventuellement de la population.
Et il y a un point sur les procédures collectives aussi que vous allez faire ?
Oui, essentiel toujours pour nous, quand on forme des sentinelles, en fait, on a toujours l'idée que les acteurs du monde économique ont très peu de connaissances des procédures de traitement des difficultés des entreprises. Et les formations de sentinelles, comme les formations de psychologues, on a toujours estimé que c'était très important qu'ils aient une intervention d'un juriste ou d'un mandataire ou d'un greffier ou d'un juge qui vienne présenter les procédures collectives et les acteurs des procédures collectives pour justement être en capacité, d'une part, de faire encore plus de prévention, parce que beaucoup d'entreprises arrivent trop tardivement dans les institutions judiciaires, et de pouvoir aussi comprendre et accompagner encore mieux des chefs d'entreprise qui traversent des difficultés.
Alors, au-delà des chefs d'entreprise, et là on va dépasser un peu le cadre d'APESA, vous voulez aussi venir en aide aux jeunes calédoniens, notamment, et vous lancez ce qu'on peut appeler une expérimentation, et que vous faites aussi en métropole, pour prévenir le suicide chez les jeunes.
Alors en fait, j'aimerais beaucoup, effectivement, intervenir sur ce territoire et expérimenter un dispositif que je vais expérimenter dans plusieurs départements en métropole, avec l'idée qu'on n'est pas assez ambitieux en prévention du suicide des jeunes. C'est une vraie réalité aujourd'hui. Et d'abord, la crise sanitaire et la situation économique ici a sans doute surajouté à la crise, d'abord des parents et des institutions, et des adolescents ou des jeunes adultes qui grandissent avec des institutions ou des parents plus fragiles et plus en difficulté ont aussi plus de difficultés à grandir. Donc je voudrais expérimenter effectivement, mais ça c'est un des échanges qu'on aura cette semaine avec le gouvernement pour voir de quelle manière on peut, sur ce territoire, aller vraiment plus loin en prévention et réduire de manière, j'espère, considérable les taux de tentatives de suicide, mais aussi les blessures auto-infligées, les conflits un peu exacerbés, la violence, voilà, tout un tas de situations que traversent les jeunes dans leur processus d'adolescence. Et dans un contexte de société plus compliqué pour eux, ça flambe ces troubles-là, mais on doit pouvoir les contenir, on doit pouvoir les prévenir et on doit pouvoir les prendre en charge beaucoup plus rapidement.
Et pour vous, votre idée, ça passe par quoi concrètement ?
Alors concrètement, pour moi, ça passerait par un projet ambitieux. J'ai toujours considéré que si on permettait à des adolescents de rencontrer, quand tout va bien, un psychologue une fois par an, par exemple, ou un professionnel de santé qui s'intéresse au projet de l'adolescent, on lui permettrait deux choses. La première, c'est de parler de lui et d'apprendre dans un espace confidentiel à raconter un petit peu tout ce qu'il vit dans sa vie familiale, personnelle, dans son projet, dans son sport, dans ses perspectives. Et le deuxième intérêt, ça serait de lui montrer que finalement, quand on va voir un psychologue une fois tous les ans, au moment où on rencontrera les premières difficultés de l'adolescence, parce qu'ils en traversent tous, la rupture amoureuse, le conflit, le harcèlement, la difficulté d'un projet qui ne fonctionne pas, on n'est pas très doué pour les études, on ne sait pas trop comment faire pour dire à nos parents qu'on préférerait faire un apprentissage. Tout un tas de situations qu'on n'ose pas mettre en mots. Si on prend l'habitude d'aller en parler avec un professionnel, d'une part, on en parlera peut-être plus facilement à ses proches, et d'autre part, je suis convaincu qu'un adolescent qui a appris à parler de lui quand tout allait bien, il ira beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite voir un professionnel qu'il connaît déjà s'il commence à traverser des difficultés. C'est pour moi ça la prévention du risque suicidaire, c'est de pouvoir avoir très rapidement un espace de confession chez un adolescent. Mais quand on prend l'habitude d'aller parler de soi chez un professionnel quand tout va bien, je suis sûr qu'on s'en sert beaucoup mieux quand on commence à avoir des difficultés.
Est-ce qu'aujourd'hui on a des statistiques sur les tentatives de suicide ou les suicides en Nouvelle-Calédonie? On le sait, c'est souvent des choses qui sont cachées, qui sont de la sphère du privé. Il y a eu quelques suicides qui malheureusement ont été faits sur la voie publique, donc on l'a peut-être plus vu. On a l'impression qu'il y a une augmentation des cas. Est-ce que c'est concrètement le cas ou est-ce qu'on manque de données là-dessus?
Alors c'est très difficile. En Nouvelle-Calédonie, les chiffres sont relativement constants, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'études. Je crois que la dernière étude assez importante sur le territoire, c'était en 2014-2015. Donc on a très peu d'études très spécifiques, mais je sais qu'il y a eu une grosse enquête faite auprès de un peu plus de 4000 ou 5000 adolescents ici cette année, avec des résultats de cette enquête qui seront sans doute publiés en début d'année prochaine, donc on aura certainement beaucoup plus d'indications précises.
Pour le moment, c'est uniquement sur la province sud.
C'est sur la province sud, mais au niveau national, on a très peu de chiffres récents sur le risque suicidaire, et c'est très difficile aussi parce que les chiffres que l'on identifie, y compris au niveau national, c'est les personnes qui ont fait une tentative de suicide et qui passent par un service de soins. Mmh. Donc les chiffres sont souvent sous-estimés de tentatives de suicide, parce que si un jeune fait une tentative de suicide mais n'est pas hospitalisé et passe pas par un service de soins, et on sait le contexte en Nouvelle-Calédonie de l'accès aux soins qui est quand même très compliqué aujourd'hui, et surtout sur certains territoires, je pense à la province nord ou sur les îles autour, c'est difficile de repérer, et quand on repère pas, on a souvent des récidives. Quand il n'y a pas une bonne prise en charge, on a souvent des récidives, donc c'est une vraie priorité de pouvoir s'intéresser à cette question-là.
On compare souvent évidemment à la métropole. Est-ce que les leviers sont les mêmes ici qu'en métropole pour prévenir le risque suicidaire? Est-ce que ce sont les mêmes outils? Est-ce qu'ils sont adaptés, ceux que vous déployez en métropole par exemple?
Je dirais que les outils sont les mêmes, puisque les institutions sont les mêmes. Donc on devrait pouvoir effectivement encore mieux faire, mais on manque beaucoup de moyens. Et ici, le problème des émeutes, c'est que ça, je pense... désorganiser beaucoup de services de soins de proximité, et il manque beaucoup de médecins, il manque beaucoup d'infirmiers, de psychologues sur pas mal de structures. Même si je sais ici, à Nouméa, il y a le Casado, par exemple, dont on m'a beaucoup parlé, qui est un espace avec un accès possible aux consultations. Je sais qu'il y a le suicide aussi, avec un numéro ouvert 7 jours sur 7. Mais ça, c'est pour Nouméa, et on a certainement énormément de choses à faire ailleurs, mais il faut des moyens pour ça. Et les moyens humains, je pense qu'on en a, avec les services de santé scolaire, par exemple, avec les éducateurs spécialisés, avec les psychologues libéraux, avec les médecins généralistes, peut-être, même s'il n'y en a pas forcément énormément. Mais on doit pouvoir mobiliser aussi, peut-être, un peu plus d'interlocuteurs qui ne sont pas des professionnels de santé et qui sont certainement de très bons acteurs de prévention pour les jeunes.
Jean-Luc Douillard, alors au-delà des événements que vous avez noté tout à l'heure et que vous avez pu nous donner sur la CCI. Vous allez aussi animer une conférence à l'UNC. Ce sera demain à 18h sur la prévention du risque suicidaire chez les jeunes. Ce coup-ci, c'est ouvert au grand public, ce rendez-vous ?
Voilà, oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. L'idée, c'est de parler un petit peu de ce que traverse l'adolescent dans son processus d'adolescence, en lien avec sa culture, mais aussi avec la société dans laquelle il est, de pouvoir partager avec des parents, des éducateurs, des enseignants, des professionnels de santé, des institutionnels, ce que peut être la prévention du risque suicidaire chez les adolescents, comment faire, quels sont les signes qu'on peut repérer, et surtout, quels sont les mots qu'on peut mettre face à un adolescent qui souffre. C'est pas toujours évident, et surtout quand c'est un de nos proches, mais on doit pouvoir se donner des outils supplémentaires pour aller encore plus loin dans la prévention et permettre à des adolescents le plus vite possible d'être pris en charge, ou au moins de discuter avec un parent ou un éducateur sur une situation qu'il traverse. On a tendance, quand un adolescent va pas très bien, à essayer de banaliser sa souffrance en lui disant « t'inquiète pas, ça va passer ». Tu vas refaire un projet où tu vas retomber amoureux. Et en fait, tous ces petits tips ou ces petits verbatims de la part des proches, c'est presque pire pour un adolescent qui a besoin qu'on lui dise ce que tu traverses est très difficile, que ce soit la rupture amoureuse, le harcèlement. On ne peut pas juste lui dire t'inquiète pas, ça va passer. On doit aller un peu plus loin en lui disant mais ce que tu traverses est très dur. Tu vas mal dormir pendant très longtemps, tu vas peut-être avoir mal au ventre, pas envie d'aller au lycée, parfois avoir des idées suicidaires ou des idées noires. Mais moi je suis là, on peut en parler. Et je voudrais que les adultes de proximité soient plus tranquille avec ça pour permettre à des adolescents de pouvoir l'exprimer beaucoup plus facilement.
Donc c'est à destination des familles cette conférence ?
Oui, ça peut être à destination des familles, ça peut être à destination des professionnels. Voilà. Je voudrais développer une culture commune de ce que peut être la prévention du suicide en Nouvelle-Calédonie, de faire encore plus que ce qui se fait déjà. Et encore une fois, je pense que la prévention du suicide, c'est d'abord une affaire de proximité avant d'être une affaire de spécialiste. Donc on doit pouvoir aller plus loin en donnant des clés de compréhension de ce que peut être le processus suicidaire chez un adolescent, pour permettre à beaucoup d'adultes d'être encore plus acteurs. C'est ça le drame de la souffrance des ados, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de stratégies quand ils traversent les premières difficultés, et donc ils font beaucoup de tentatives de suicide. Donc je voudrais leur donner un petit peu plus d'air et donner des outils aux acteurs de proximité pour leur permettre beaucoup plus tôt d'intervenir et de donner des clés à ces adolescents pour qu'ils n'aillent pas jusqu'à la tentative de suicide.
Et bien pour venir vous écouter, rendez-vous à 18h donc à l'Université de la Nouvelle-Calédonie sur le campus de Nouville pour demain. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous, avec plaisir.
Ce matin. Je rappelle que vous êtes notamment le cofondateur de la PESA.